Oui, c'est moi, mon cher président. J'ai à vous parler sans retard. Allô, allô, allô? Ah, vous n'êtes pas libre avant une demi-heure. Soit, dans une demi-heure. J'y serai. Merci. Situation grave. Décision urgente. Cependant, on s'empressait autour de la malade. Elle devait être sujette à ces malaises, car son mari avait sur lui une petite trousse et des flacons. Il retira vivement son pardessus, s'agenouilla et la soigna avec une angoisse qui lui étreignait la gorge et rendait presque inintelligibles les questions qu'il lui posait, comme si elle avait pu entendre. « C'est ton cœur, n'est-ce pas, ma chérie? Oh, c'est ton pauvre cœur. Mais ce ne sera rien. Oh, déjà, tu ne souffres plus. Oh, tes joues sont plus roses. Je t'assure que tout va bien. N'est-ce pas, ma chérie ?» La syncope dura quelques minutes. Lorsque Madame de Boisvernet se réveilla et qu'elle eut aperçu Rouxval, son premier mot fut un mot de détresse.
« Emmène-moi, partons. Je ne veux pas rester ici. »
« Voyons, ma chérie, sois raisonnable. Repose-toi d'abord. »«
Non, 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 partons. Je ne veux pas rester. »
Il y eut un instant d'agitation. Sur la prière du comte, Maxime Lériot la saisit dans ses bras et l'emporta. Monsieur de Boisvernet suivait, bouleversé, tout en remettant son pardessus avec l'aide d'Hercule Petitgris. Rouxval n'avait pas bougé. On eût cru que la scène se passait en dehors de lui. D'ailleurs, ces gens, coupables du forfait le plus odieux, ne lui inspiraient que de l'antipathie. Et il ne se fut pas avisé qu'il devait secours ou pitié à une femme comme la comtesse. Le front collé contre la vitre d'une fenêtre, il essayait de raisonner et de trouver une ligne de conduite adaptée aux circonstances. Pourquoi cette visite au président du conseil? N'eût-il pas mieux valu en finir et se mettre en rapport avec le parquet, avec la justice?
Allons, allons, je vais faire des bêtises. À tout prix, du sang-froid!
Il résolut d'aller à pied jusqu'à la présidence. L'air vif, la marche, le calmerait. Il prit donc son chapeau dans un placard et se dirigea vers la porte. Mais à sa grande surprise, il se heurta une seconde fois au sieur Petitgris, assis sur une chaise près de l'entrée. Le policier n'avait pas quitté la pièce.
« Comment ? C'est vous ? Vous êtes encore là ?»
Oui, monsieur le ministre, et je ne saurais trop vous engager à me tenir compagnie.
Rouxval fit la grimace, et il allait relever, comme elle le méritait, cette familiarité choquante, lorsqu'un haut-le-cœur le redressa soudain. Il venait de s'apercevoir que la canine du policier pointait à gauche, en dehors de la lèvre retroussée. Il n'eût pas été plus décontenancé si quelque phénomène inattendu avait surgi en face de lui. L'apparition de cette dent acérée, très blanche, longue comme une dent de bête fauve, il savait ce que cela signifiait d'ironique et d'impertinent.
Crénom, je n'ai pourtant pas à bafouiller.
Employant ici le terme même dont s'était servi Petitgris. Il se rebiffa. Un ministre, habitué comme lui au maniement des hommes et des affaires, ne bafouille pas. Sa vision des faits est nette. Le chemin qu'il choisit mène droit au but, et les petits pièges où trébuche le vulgaire ne s'ouvrent point sous ses pas. Tout de même, la vue de cette dent le gênait. Pourquoi cette dent? Que signifiait-elle en l'occurrence? Afin de se rassurer, il retourna l'accusation contre Petit Gris.
Si l'un des deux bafouille, c'est ce coquin-là. Car enfin, tout cela est tellement clair. Un collégien ne s'y tromperait pas.
Si clair que ce fut, il accepta cependant l'entretien.
Ah, je suis pressé. Qu'y a-t-il ? Parlez.
Parlez ? Oh, mais je n'ai rien à vous dire, monsieur le ministre.
Comment rien à me dire ? Mais je suppose que vous n'avez pas l'intention de coucher ici.
Certes non, monsieur le ministre.
Alors ?
Alors j'attends.
Vous attendez quoi ?
Une chose qui va se produire.
Quelle chose ?
Patientez, monsieur le ministre. Vous avez encore plus d'intérêt que moi à la connaître. Ah, ce ne sera pas long d'ailleurs. Quelques minutes, une dizaine tout au plus. Ah, c'est ça, 10 minutes.
Mais il ne se produira rien du tout. Les aveux de ces gens-là sont catégoriques.
Quel aveu ?
Comment ? Mais ceux de Lériot, du comte et de sa femme.
La comtesse, peut-être. Mais le comte n'a rien avoué. Et Lériot, pas davantage.
Qu'est-ce que vous me chantez là ?
Ah, c'est pas une chanson, monsieur le ministre. C'est un fait. Les deux hommes n'ont, autant dire, pas soufflé mot. Au fond, il n'y a qu'une personne qui a causé. C'est vous, monsieur le ministre.
Et sans paraître remarquer l'attitude menaçante de Roxval, il articula
« Oh, un beau discours, d'ailleurs, que j'ai savouré comme il convenait.
Quelle éloquence ! À la tribune de la Chambre, vous en auriez eu un succès. Alors, ovation, affichage et tout le reste.
Seulement, c'était pas ça du tout qu'il fallait. Quand il s'agit de cuisiner le coupable, on le farcit pas de discours. Et au contraire, on l'interroge, on le fait jacasser, on l'écoute. Et voilà ce que c'est qu'une instruction. Si vous croyez que le sieur Petit Gris s'est contenté de roupiller dans son coin, fichtre non. Et le sieur Petit Gris ne lâchait pas de l'œil nos deux bons hommes, et surtout le bois Vernet. Et c'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous avertis que dans 8 minutes, quelqu'un viendra et qu'une chose se produira. Encore 7 minutes et demie.